Avec le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Des avions cloués au sol sur le tarmac et des passagers en carafe et glazure ne fera plus voler personne à partir de ce soir. Ces comptes sont tellement dans le rouge qu'il n'y a pas d'autre solution et ceux qui ont déjà leur billet ne seront pas indemnisés. La mort de Robert Mugabe, ancien dictateur du Zimbabwe chassé il y a 2 ans, il y en avait 95. Mélenchon-Lula, même combat, le patron de la France Insoumise se dit victime d'une justice politique en France, comme l'ancien président brésilien qu'il a visité cette nuit en prison, vous l'entendrez. Les mémoires de l'un des plus grands penseurs français, nous aurons la chance de l'avoir dans ce studio tout à l'heure.
Oui, nous recevons avec Léa Salamé le sociologue et philosophe Edgar Morin. Il publie « Les souvenirs viennent à ma rencontre » aux éditions Fayard. Il est l'invité donc du grand entretien. Dialoguez avec lui, 01 45 24 7000, l'application France Inter ou les réseaux sociaux. Edgar Morin tweet, il nous en parlera j'imagine aussi tout à l'heure.
Dans ce journal aussi, du changement pour les particuliers employeurs, l'arrestation d'un des grands bandits présumés des années 2000, le séquençage du petit pois alternative à la viande, Serena Williams et sa 10e finale à l'US Open de tennis et le dernier Woody Allen projeté en ouverture du festival de Deauville ce soir.
France Inter.
Sans doute ne s'attendait-elle pas à trouver les comptes de la compagnie en si mauvais état. Aiglazur, presque 2 millions de passagers par an pour 40 millions d'euros de dettes. Les deux administratrices arrivées en début de semaine quand l'entreprise a été placée en redressement ont découvert l'ampleur de la catastrophe et elles arrêtent tout. Plus de vols à partir de ce soir. Les avions et les 1150 salariés cloués au sol, comme les passagers qui vont devoir se retourner sans être indemnisés. Rémi Brancato est allé voir ceux qui ont pu rentrer d'Algérie hier soir par les derniers vols Aiglazur. La compagnie assure 50 à 60% des vols entre l'Algérie et la France.
Au terminal 4 d'Orly, Rina rentre de vacances avec 2 heures de retard au départ d'Alger.
C'est un carnage avec Aiglazur. 5, 6, 7 heures de retard, des annulations au dernier moment. On m'a annulé le vol d'hier.
Et elle va même devoir sans doute repayer des billets pour ses parents qui ont un vol prévu lundi. Tous sont annulés dès ce soir.
On ne sait même pas avec quelle compagnie vont rentrer.
Aiglazur assure ne plus avoir les moyens d'indemniser les passagers.
C'est pas possible, il y a encore des passagers sur Alger. Comment ils vont faire pour rentrer ?
Harib rentre de vacances avec son fils.
Il y a encore des enfants qui sont encore là-bas, hein, qui doivent rentrer à l'école. Moi, mon fils, normalement, il devait rentrer le 2. J'ai mon vol qui a été annulé le 31.
Avec ses prix attractifs, Aiglazur compte de nombreux habitués pour qui c'était sans doute le dernier vol.
Mon Dieu, j'ai eu de la chance alors.
Fatima voyage chaque été avec la compagnie.
C'est dommage, hein, le personnel et tout. Hein. Ils vont perdre leur place, hein, ils vont perdre le boulot et tout ça.
J'ai entendu le pilote se plaindre.
Rania, elle, a senti une certaine fébrilité chez les personnels de bord.
Il disait qu'il n'avait pas eu sa paye du mois d'août. Il a fait une blague et il a dit qu'il nous déposerait sur l'eau, qu'il puisse profiter au moins de quelques jours de vacances en mer.
À leur sortie de l'avion, les personnels d'Aiglazur refusent de s'exprimer au micro. Ils se disent solidaires et espèrent encore qu'un repreneur se manifeste.
Le SNPL, syndicat des pilotes, appelle à manifester demain matin à Orly et demande à être reçu par le ministre des Transports. Quant aux repreneurs potentiels, ils ont jusqu'à lundi pour se manifester. Il était l'homme de l'indépendance de la Rhodésie, devenu Zimbabwe en 1980. Robert Mugabe, mort cette nuit à l'âge de 95 ans, de héros de l'indépendance. Il était devenu l'un des pires dictateurs africains, chassé du pouvoir en 2017 après 37 ans d'un règne sans partage, marqué par la répression constante de ses opposants.
Il est 8h04, Florence, lui, se voit comme la victime politique d'une justice aux ordres.
Comme son ami Lula, qu'il est allé voir cette nuit en prison, point d'orgue de sa tournée latino-américaine. Et Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à faire le parallèle entre la situation de l'ancien président brésilien, condamné à 9 ans de prison pour corruption et qui se dit victime d'un procès politique, et ses propres ennuis en France, où il comparaîtra dans 15 jours pour s'être opposé à la perquisition du siège de la France Insoumise.
Il n'y a pas de limite à l'utilisation de la justice dans les procès politiques. Je serai moi-même en procès politique à la fin du mois de septembre et je sais que ce sera un moment très triste pour mon pays parce qu'il n'y avait pas eu de procès politique depuis la période de la guerre d'Algérie en France. Et cette honte, qui est de régler des comptes politiques avec moi. Je veux qu'elle retombe exclusivement sur M. Macron qui a rendu tout ça possible. La ministre de la Justice, Mme Belloubet, qui n'a de justice que le nom. Et le ministre de l'Intérieur, M. Castaner.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon interrogé à la sortie de la prison de Curitiba au Brésil par Jean-Mathieu Albertini. On reste au Brésil avec cette question. Faut-il continuer à acheter du cuir au pays de Jair Bolsonaro pour le géant du vêtement suédois H&M? La réponse est non. Pas de cuir en provenance d'un pays qui incendie l'Amazonie pour en faire des pâturages pour le bétail. La situation là-bas fera l'objet d'un sommet en Colombie aujourd'hui. Le Pérou, l'Équateur et le Brésil y seront représentés sans le président brésilien et sans vision commune sur l'enjeu amazonien. Olivier Poujade.
Les 80 000 départs de feu recensés au Brésil depuis le début de l'année ont fait tomber le masque de Jair Bolsonaro. Pour lui, l'Amazonie est une terre comme les autres, destinée à être exploitée. Depuis son arrivée au pouvoir, la déforestation a bondi de 67%. Son gouvernement a autorisé l'utilisation de 239 nouveaux pesticides. Jair Bolsonaro souhaite ouvrir les portes de l'Amazonie à l'agrobusiness et aux orpailleurs. Et surtout, qu'on ne vienne pas mettre le nez dans ses affaires. Une vision totalement opposée à celle d'Ivan Duque, le président colombien, à l'initiative de la réunion d'aujourd'hui. La Colombie est aussi l'une des principales victimes de la déforestation, mais depuis l'an dernier, l'Amazonie y est considérée comme un sujet de droit. Une décision de la Cour suprême qui oblige l'État à protéger, conserver et restaurer sa forêt. Ivan Duque plaidera en faveur de la création de mécanismes communs pour défendre l'Amazonie. Le Brésilien Bolsonaro, lui, n'apparaîtra dans cette réunion que par vidéoconférence. Officiellement, pour raison médicale, certains y verront sans doute une manière de prendre de haut l'initiative colombienne.
Et au Brésil, le gouvernement Bolsonaro continue à s'en prendre au physique de Brigitte Macron. Elle est vraiment moche, dit cette fois le ministre de l'économie, applaudi par une assemblée d'hommes d'affaires avant de présenter ses excuses via son service de presse. En France, on s'interroge sur ces incendies tardifs dans la saison du feu aux portes de Marseille hier soir à Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales, en Ardèche, mais aussi plus au nord, dans l'Indre et en Charente-Maritime. Avec le réchauffement climatique, il va falloir revoir la politique de certains départements jusqu'ici épargnés, dit le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Il est 8h07 et du changement, Florence, pour 3 millions de particuliers employeurs.
Ceux qui payent quelqu'un pour leur ménage, la garde des enfants ou l'assistance d'une personne âgée, ils peuvent désormais verser directement les salaires et les charges en ligne. Et l'an prochain, les plus fragiles se feront rembourser leur crédit d'impôt tous les mois. Explication signée Delphine Simon.
Plus besoin de faire un chèque en deux clics sur la plateforme CESU+. À la fin de chaque mois, Marianne déclare le salaire et les cotisations de son employé de maison.
Je travaille, je ne vois pas toujours mon salarié, donc je n'ai plus à me dire, il faut que je lui laisse un chèque qu'elle va trouver, que je vais laisser où. Au moins, ce salaire va directement sur son compte sans que j'y aie à penser chaque mois.
C'est l'URSSAF qui se charge de reverser son salaire à l'employé en moins de deux jours. C'est donc plus rapide qu'un chèque à encaisser à la banque, constate François. Ce cadre parisien utilise la plateforme CESU+ depuis trois mois.
C'est plus rapide qu'un encaissement de chèque. Donc à la fois simplification pour l'employeur, simplification aussi pour la salariée qui n'a pas à aller faire chaque mois sa remise de chèque en banque.
Une plateforme qui doit permettre de faciliter le passage au prélèvement à la source. Pour le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, il faut rendre l'impôt plus contemporain. À partir du 1er juillet prochain, les employeurs âgés et handicapés à Paris et dans le Nord toucheront leur crédit d'impôt chaque mois et non en début d'année avec régularisation en septembre.
C'est une avance de trésorerie. On voit bien que les personnes qui seront concernées par la PCH ou par l'APA, c'est-à-dire l'autonomie et les personnes âgées, elles peuvent avoir des questions de pouvoir d'achat. Au lieu d'attendre le remboursement de ce crédit d'impôt, ils l'auront immédiatement.
Une expérimentation que Bercy souhaite généraliser en 2021 à tous les crédits d'impôt partout en France.
Et puis on parlait la semaine dernière de ces fortes augmentations de taxes foncières. Pour certains propriétaires, le ministre Darmanin les a chiffrées. 130 000 contribuables sont concernés qui ont fait des travaux dans leur maison. C'était l'un des gros bonnets du banditisme des années 2000. Yannick Dacheville, qui vivait en exil à Dubaï, a dormi la nuit dernière en prison à Villepinte, extradé après l'exécution d'un mandat d'arrêt international via Interpol. Son avocat dénonce un mandat illégal et réclame sa remise en liberté immédiate. Emmanuel Leclerc.
Yannick Dacheville a d'abord été soupçonné de fournir des grosses cylindrées pour des go-fast, les fameux convois de voitures chargées de drogue entre l'Espagne et la France. Il a ensuite été condamné à 12 ans de prison dans l'histoire des 110 kilos de cocaïne saisis dans l'appartement d'une princesse saoudienne en 2010 à Neuilly-sur-Seine. Yannick Dacheville apparaît enfin dans une affaire d'escroquerie à la taxe carbone, mais à chaque fois il est condamné par défaut car depuis 9 ans, il vivait entre Israël et Dubaï, notamment. Son avocat Philippe Ouaillon dénonce aujourd'hui le mandat d'arrêt délivré par Paris.
Premièrement, deux choses. Demande de mise en liberté immédiate, faute de quoi nous porterons plainte au pénal contre le parquet général, parce qu'il y a des règles qui doivent être respectées, on ne peut pas faire n'importe quoi, ils le savaient, hein. On leur a écrit 1000 fax. L'extradition, c'est un contrat entre deux pays, on en respecte les clauses. C'est quelque chose qui est tellement grave en matière d'extradition, c'est un sujet qui est technique, mais c'est la liberté des gens qui est derrière. Donc c'est pas rien. Pour moi, c'est du jamais vu.
Yannick Dacheville est également l'homme à l'origine de la chute de Michel Néré. Le commissaire avait donné en 2011 sous le manteau à un indic la fiche justement du premier mandat d'arrêt lancé à l'encontre de Yannick Dacheville qui se trouvait alors entre Tel Aviv et Dubaï.
Une enquête de la police des polices ouverte après l'interpellation d'un homme en pleine crise de démence mercredi soir à Tarascon. Il est mort après avoir subi deux tirs de taser. Et puis c'est une hypothèse prise très au sérieux après la disparition d'un étudiant à Toulouse la semaine dernière. Il se semble qu'il se soit piégé dans une benne à ordures après une soirée très arrosée. Les enquêteurs sont donc en train de chercher du côté de l'incinérateur de déchets de Toulouse. Des petits pois pour remplacer la viande. On dit que c'est une bonne alternative compte tenu de leur richesse en protéines, d'où l'utilité du séquençage du génome du petit pois que 8 équipes de recherche viennent de finaliser après 5 ans de travail. C'est très sérieux, Sophie Becherel.
Le petit pois, une légumineuse fétiche pour les généticiens. C'est avec lui que M. Mendel, le père de la génétique moderne, a déterminé les premières lois de l'hérédité. S'il a fallu 150 ans pour séquencer son génome, c'est parce qu'il est volumineux et complexe. Mais avec tous les détails de l'ADN en main, la sélection de tel ou tel caractère de la plante sera désormais grandement facilitée. Et dans un contexte de changement climatique, ce n'est pas rien, explique Judith Burstin, chercheuse à l'INRA et co-auteure de cette recherche internationale.
Cette séquence, elle va permettre de trouver plus facilement les gènes qui ont un impact sur les caractères d'intérêt, donc les caractères comme le rendement ou la tolérance à différents stress, des fortes températures ou le stress de sécheresse.
Le pois est une légumineuse majeure pour l'avenir. Ses vertus, il est riche en protéines et tout destiné pour compenser les protéines animales. Car on le sait, pour préserver la planète, il faut manger moins de viande. Et puis, le petit pois préserve aussi les sols, ajoute Judith Burstin.
Grâce à la symbiose qu'elle développe avec des bactéries du sol qui sont capables de fixer l'azote de l'air, c'est effectivement une plante qui n'a pas besoin d'être fertilisée avec des engrais azotés.
Ces engrais azotés qui sont l'une des causes principales des émissions agricoles de gaz à effet de serre.
Impériale Serena Williams qui s'apprête à jouer sa 10e finale à l'US Open à 37 ans. Elle a battu l'Ukrainienne Svitolina en 2-7 réglementaires. Cette nuit, sa longévité subjugue l'ancienne vainqueur de Wimbledon, Marion Bartoli, au micro de Fabrice Abgral.
Les superlatifs finissent par nous manquer tellement ce qu'elle réalise est absolument exceptionnel. Le fait de revenir après sa grossesse et tout ce qui s'est passé sur le plan de sa santé lors de son accouchement, d'arriver à revenir à un tel niveau, pour moi, c'est absolument exceptionnel et ça démontre sa passion pour ce sport, tout simplement. Elle a vraiment envie d'être sur un terrain et de jouer. C'est ce qu'elle aime le plus faire au monde et je trouve que ça se voit de plus en plus au plus ses années passent. Elle déteste perdre, bien sûr, mais elle veut gagner par-dessus tout. Et je pense que ce record qu'elle va absolument chercher et le dépasser, être à 25, mais être tout en haut de l'affiche, c'est vraiment ce qui continue de l'amener sur le terrain tous les jours.
Serena Williams qui affrontera en finale demain, la jeune prodige canadienne Bianca Andreescu de 17 ans, sa cadette.
Il est 8h14, Florence Deauville qui a astiqué ses planches pour l'ouverture de son festival du cinéma américain ce soir.
Avec un jury présidé cette année par Catherine Deneuve et un film d'ouverture signé Woody Allen, Un jour de pluie à New York. Film qui ne sortira pas aux États-Unis à cause des accusations d'agression sexuelle de sa fille adoptive. L'Europe lui réserve un tout autre accueil. Eva Béton l'a rencontré de passage à Paris il y a quelques jours.
En cette période de crise pour Woody Allen, le décalage entre les États-Unis et l'Europe et même le reste du monde est net. Un jour de pluie à New York va sortir en France, Angleterre, Espagne, Portugal, etc. Mais aussi en Chine, au Brésil, en Turquie, une trentaine de pays. Alors que les Américains n'ont pas vu le film, sorti gelé par Amazon qui l'a produit, en raison des accusations dont Woody Allen fait l'objet, Woody Allen se sent mieux compris en Europe.
Mind of Europe, I think, is more sensible.
Les Européens sont plus sensés.
vérité. Ils comprennent la vérité, la réalité de la situation. Les Américains ne la comprennent pas.
Il y a eu les critiques violentes et aussi les gens du milieu qui lui ont tourné le dos, comme le héros de cette comédie brillante, Timothée Chalamet, qui, le scandale venu, a dit regretter d'avoir tourné avec Woody Allen. Et pourtant, le réalisateur semble serein.
Je pense que les gens qui m'attaquent font une erreur. Ils ne devraient pas. Mais les gens font des erreurs tout le temps. Ce n'est pas une erreur tragique. C'est une erreur. Ils devraient sortir mon film aux États-Unis. Arrêtez de m'attaquer, voir la vérité de cette situation. Jusqu'à présent, ils ne le font pas. Peut-être qu'un jour, ils y arriveront. Si c'est le cas, formidable. S'ils ne le font pas, eh bien, ils ne le font pas.
Le film suivant est déjà tourné en Espagne, financé par des Espagnols.
Voilà, complexe. Woody Allen, son jour de pluie à New York, sortira le 18 septembre en France. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après.